Je vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1960. Dans ce deuxième épisode, l'enlèvement du petit-fils du PDG de Peugeot, un sommet des grandes puissances mondiales qui capote à Paris, deux chiennes russes dans l'espace, un bedeau cambrioleur et la reine d'Angleterre qui a un polichinelle dans le tiroir.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1960.
Le mardi 12 avril 1960, au golfe de Saint-Cloud, un gamin de 4 ans est enlevé sous les yeux de sa nounou alors qu'il joue dans le jardin d'enfants qui jouxte le clubhouse. Cet enfant n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Éric Peugeot. C'est le petit-fils du patron de la marque automobile Peugeot. La nourrice prévient la maman du petit Éric qui est en train de jouer au golf et les soupçons se portent sur deux hommes aperçu dans les environs.
Monsieur Boulifin, vous êtes concierge et jardinier dans une villa qui est à côté du golfe de Saint-Cloud. Dites-moi ce que vous avez vu.
J'étais au bord de la route quand ils ont passé, oui. Derrière les arbustes, et j'ai vu passer une voiture avec deux hommes dedans.
Est-ce que vous avez déjà remarqué la voiture avant, dans le petit chemin?
Je l'ai vu arrêter, la voiture.
Oui, et longtemps avant qu'elle s'en aille?
Oh, ils ont resté là peut-être un quart d'heure, 20 minutes.
Lorsque vous avez vu la voiture, y avait-il quelqu'un dedans?
Non. Il n'y avait personne. Je suis remonté à la maison, j'ai redescendu là. À ce moment-là, j'ai aperçu la personne qui cherchait l'enfant là-dedans. Ça devait être la nôtre. J'ai cru à ce moment-là que c'était la mère.
Oui.
Elle était affolée. J'ai dit, mais on a enlevé mon enfant. Il dit, je ne le retrouve pas. Et elle l'appelait.
Le golf de Saint-Cloud est l'un des clubs les plus huppés de la région parisienne. Le kidnappeur est entré dans le jardin d'enfants par une brèche dans le mur d'enceinte. Et un homme l'a vu prendre la fuite avec son complice.
Il s'est mis un homme. D'une taille comme moi.
Une taille moyenne.
Moyenne,
1m70.
C'est ça.
Comment était-il habillé?
Il habillait avec une veste tout bleue.
Une veste bleue?
Complet. Veste bleue. Les pantalons bleus. J'ai vu l'homme. Il s'est vu qu'il a traversé les jardins, oui, d'un côté à l'autre jusqu'à la voiture.
Mais vous avez vu la voiture?
La voiture, oui, une 403 noire.
Une 403 noire?
C'est ça.
Près du toboggan où l'enfant a été enlevé, une lettre. Il ne sera fait aucun mal à l'enfant si vous payez une rançon de 50 millions de francs. C'est la première fois que la France assiste à un kidnapping d'enfants avec demande de rançon, ce qui était jusque-là un crime à l'américaine. Et bien sûr, la presse se délecte de ce fait divers. Le pays s'émeut du sort de ce gamin dont la photo noir et blanc est largement diffusée. C'est un gamin rondouillard aux cheveux clairs coupés courts. Et 48 heures après l'enlèvement, le père de l'enfant, Roland Peugeot, fait passer un message au ravisseur à la télévision, en noir et blanc, bien sûr.
C'est un père à qui l'on vient de prendre son enfant qui s'adresse à vous. Tous ceux qui ont des enfants et qui les aiment me comprendront, j'en suis sûr. Mon seul souci est de le retrouver sain et sauf le plus tôt possible. Je n'ai pas déposé de plainte. Je prends l'engagement formel de demander que le ravisseur ne soit pas poursuivi.
À la suite de ce message, les ravisseurs appellent le père du petit Éric.
On a vu votre passage à la télévision. Si vous nous remettez les 50 millions sans prévenir la police, sans être suivi, le gamin sera libéré. Sinon...
Le père du petit Éric suit scrupuleusement les consignes des ravisseurs. Il va livrer la rançon sans être aidé par la police. Parce que lui, l'interpellation des truands et l'argent, il n'en a qu'une. Il n'y a qu'une chose qui compte, la vie de son fils. Roland Peugeot livre donc la rançon selon les directives des malfrats. Et ouf, dans la nuit, son fils lui est rendu sain et sauf. On n'a fait aucun mal au petit Éric. Trois jours après ce dénouement heureux, M. Peugeot reçoit Europe numéro 1 pour donner toute sa version.
À quel endroit avez-vous remis la rançon réclamée et de quelle manière?
Beaucoup d'endroits ont été mis en avant. C'est avenue des Ternes que j'ai remis la rançon. Permettez-moi de conserver cependant pour moi les détails dans l'opération de la remise de la rançon, car si la police juge bon de divulguer ma déclaration, c'est à elle de le faire et non pas à moi d'en prendre l'initiative.
Avez-vous pu voir même une seconde l'homme qui est venu chercher la rançon?
Écoutez, franchement, c'est très difficile de répondre à cette question. Néanmoins, je me trouvais du côté ombre de l'avenue des Ternes, le dos tourné aux immeubles. J'étais follement ému et très angoissé. Et par conséquent, l'opération s'est passée tellement rapidement que donner des détails serait pour moi inventé.
Roland Peugeot est très sibyllin. Il ne veut pas révéler les coulisses de cet échange avec les ravisseurs. Il craint des représailles.
J'ai décidé d'agir seul dès le début dans cette affaire parce que je me rendais compte, j'avais la conviction que c'était ma seule façon de mener à bien la récupération de mon enfant, excusez-moi le terme, enfin le fait de retrouver mon enfant. La police m'a donné son consentement sur cette affaire puisqu'elle se rendait compte que c'était probablement aussi la meilleure solution.
Monsieur Peugeot répète qu'il honorera sa parole.
Pourquoi ne portez-vous pas plainte ?
Je me suis engagé formellement par devant tous les téléspectateurs le deuxième jour. J'ai pris cet engagement personnel de ne pas porter plainte. Je ne peux faire marche arrière. Je me considère comme solidaire de ma parole et je ne la reprendrai pas.
À la fin de cette interview exclusive pour Europe numéro 1, le père confirme que le petit Eric se porte comme un charme, qu'il n'est pas traumatisé par l'affaire. Et vous allez même l'entendre. Pas certain qu'aujourd'hui, un tel scoop de Maurice Brusek soit possible.
Mon fils Eric va aussi bien que possible. Il ne parle plus de son aventure. Il a repris avec son frère sa vie de tous les jours. Et c'est pour ma femme et moi, je crois, la plus grande satisfaction, la plus grande joie qui pouvait nous arriver. D'ailleurs, je vais vous l'amener et vous allez lui poser vous-même la question que vous jugerez bon. Vous vous rendrez compte vous-même que son état de santé et que son moral est bon.
Et maintenant, le petit Eric vient de rentrer dans le bureau. Comment allez-vous, Eric ?
Bien.
Vous allez bien ? Êtes-vous content d'avoir retrouvé papa et maman ?
Oui.
Et que faites-vous maintenant ?
Jouer, mon petit frère.
Ah, et comment il s'appelle, votre petit frère ?
Jean-Philippe Peugeot.
Jean-Philippe Peugeot. Et à quoi jouez-vous ?
Aux autos.
Aux autos, et puis quoi encore ?
À la piste.
À la piste aussi, oh, ça c'est très bien. Oui, vous souvenez de ce que vous avez fait avec les deux monsieur qui vous ont emmené ?
Non.
Vous vous souvenez pas où vous êtes allé ?
Non.
Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes allé dans une voiture ?
Oui.
Et après ? À quoi avez-vous joué lorsque vous étiez avec les deux messieurs ?
À rien.
À rien ? Vous avez été bien sage alors ?
Oui.
Eh bien, vous êtes très gentil. Merci, Eric.
Finalement, c'est le grand-père du petit Eric qui portera plainte. L'enquête piétinera pendant 11 mois et les deux ravisseurs seront finalement arrêtés grâce à l'aide d'Interpol. Ils menaient des grands trains au ski, écoulant la rançon en boîte de nuit, en jolies filles et en palace. Deux petites frappes qui ont eu l'idée du kidnapping du gamin en lisant un roman policier, Rapt, de l'écrivain américain Lionel White, qui racontait l'enlèvement d'un enfant d'une riche famille américaine.
Trouvant mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie.
C'était Johnny Hallyday et Souvenir, Souvenir, sorti en juin 1960.
L'année 1960.
Mi-mai 1960, à Paris, le général de Gaulle organise un sommet politique Est-Ouest, en pleine guerre froide. Un sommet qui est censé détendre l'atmosphère. La France accueille Khrouchtchev, le président de l'Union soviétique, Eisenhower, le président américain, et Macmillan, le premier ministre du Royaume-Uni. Le premier à arriver à Paris est le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev.
Il est midi exactement à l'aéroport d'Orly, un nouvel aéroport aménagé au sud d'Orly, et l'Ilyushin 18 de M. Khrouchtchev vient de se poser sur la piste. Eh bien, le revoici. M. Khrouchtchev apparaît à la passerelle, il descend les marches, c'est le premier à sortir de l'avion, personne n'a essayé de passer l'avion avant lui. Il est vêtu d'un complet gris, il découvre son crâne luisant sous le soleil d'Orly.
Cette conférence part très mal et vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a 13 jours, un avion espion américain de type U-2 a été abattu au-dessus de l'Oural. Et à Paris, Khrouchtchev conditionne le début du sommet à des excuses du président américain. Et ces excuses ne viennent pas. Alors le dirigeant soviétique joue avec les nerfs des grands de ce monde. Tel un enfant qui fait la gueule, Khrouchtchev boude. Et il se promène en région parisienne.
À la table d'orientation du parc du château de Saint-Germain, Monsieur Vinogradov explique à Monsieur Gromyko, au général Malinowski, à Monsieur Khrouchtchev et au général Zakharov chargé de leur sécurité, les différents points de vue qu'il y a en face. Le pont de Saint-Germain avec le train qui passe actuellement, vous l'entendez peut-être. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont là sur les bancs et qui voient probablement Monsieur Khrouchtchev pour la première fois. Madame, c'est la première fois que vous voyez Monsieur Khrouchtchev ?
Oui, c'est la première fois.
Vous êtes assez surprise probablement de le voir ici, vous ne l'attendiez pas.
Je m'en suis douté tout à l'heure. Je m'en suis douté parce que j'ai vu arriver les voitures de la police alors.
Vous ne vous attendiez pas du tout à le voir ici.
Ah, ah sûrement pas. Non. Je suis venu passer la journée pour me promener.
Et puis voir le paysage.
Le beau costume là, c'est Gromyko, non ?
Non, c'est le maréchal Malinowski.
Oh, il est superbe. Il a un uniforme rutilant.
Et M. Khrouchtchev salue au passage ces personnes qui lui ont fait un salut de la main.
Julien Besançon, d'Europe numéro 1. Est au basque de Khrouchtchev. Tout le monde se demande s'il va infléchir sa position et si ce sommet tant attendu va débuter. Le lendemain, au petit matin, Khrouchtchev se balade aux abords de l'ambassade soviétique, sans protocole.
8h moins 10, rue de Grenelle, M. Khrouchtchev vient de sortir de l'ambassade. Son premier geste a été pour caresser la tête d'un enfant un peu plus loin, au numéro 7 de la rue de Grenelle. Magasin, M. Khrouchtchev entre et il s'entretient actuellement avec des vendeurs en blouse blanche.
Non, il n'y a pas de rentrée, vous ne rentrez pas, c'est tout.
M. Khrouchtchev renifle des légumes qui sont exposés sur des étagères dans le magasin.
Vous appréciez les légumes, Monsieur le Président ?
M. Khrouchtchev hausse ses épaules, il n'a pas compris ce que je lui disais. Que vous a dit M. Khrouchtchev ?
Il admire un petit peu ce qui se passait, mais enfin, on n'est pas encore ouvert et évidemment, le magasin n'est pas en ordre. C'est dommage d'ailleurs, mais enfin, il est très matinal.
Il ne vous a rien dit de spécial ?
Non, ben, ma foi, il parlait surtout russe et on n'a pas bien compris.
Que vous a-t-il dit, madame, monsieur Khrouchtchev ?
J'ai rien compris. Il parlait au russe.
Évidemment, oui, comme il ne sort pas avec son interprète ce matin, personne ne comprend rien.
Je n'ai rien compris.
La grande question demeure : ce sommet entre les quatre puissances aura-t-il lieu ? Julia Besançon se gêne pas. Il interroge le dirigeant soviétique.
Si l'Amérique fait ses excuses, si elle reconnaît qu'on a commis une agression, une véritable agression contre l'Union soviétique, si elle punit des capables d'une pareille agression, alors la conférence pourra avoir lieu. Autrement, nous partirons chez nous.
Et pendant ce temps, Khrouchtchev visite la Marne et les zones de bataille de la Première Guerre mondiale. Et quand sur la route, un arbre empêche sa progression, le dirigeant soviétique met la main à la patte.
Sur la route de Cézanne, M. Khrouchtchev descend de voiture car un arbre abattu obstrue la route. Il va sans doute voir les travailleurs qui sont en train de débiter cet arbre à coups de hache. Bonjour, dit M. Khrouchtchev.
Bonjour, c'est
une hache ?
Oui.
Monsieur Khrouchtchev prend la hache.
Très bien ça.
Il coupe une branche.
C'est très bien ça.
Reculez-vous.
On voit que c'est un homme qui sait travailler. C'est très bien.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur?
On voit que c'est un ouvrier qui a l'habitude de travailler.
Monsieur Grotchev s'amuse beaucoup.
Sam rabochim rabotov.
Oui, j'étais ouvrier moi-même.
Alors, mais ça se voit qui sait s'en servir d'une hache.
Khrouchtchev reprend la route. Et au prochain village, bah, il s'arrête dans un café pour discuter avec les gens. Et il visite aussi une ferme. Le dirigeant est en pleine opération de séduction.
J'étais en train de faucher, alors j'y ai donné ma faux. Alors il a essayé, mais il a tellement de ventes, il ne pouvait pas se baisser. Alors c'est un peu dur.
Vous pouvez dire des bêtises.
Merci. Oh, ah non, mais ben c'est vrai, je n'ai pas donné la faux.
Il avait un bon geste, il savait bien faucher.
Oui, oui. Non, il n'a pas pris. Il n'a pas pris le machin par la lame, il l'a bien pris par le manche.
Le temps passe. Et le dirigeant soviétique se plaît bien dans la campagne française. Mais Julien Besançon, notre reporter, est toujours là, pas loin.
Monsieur Khrouchtchev, monsieur le président, nous apprenons à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien venir à l'Élysée et si vous voulez bien rentrer à Paris pour assister probablement à une séance de la conférence au sommet. Qu'allez-vous faire maintenant ?
Я ничего не знаю. Кроме того, что вы мне сказали.
Vous êtes le premier à m'annoncer cette nouvelle. Je n'en sais rien. Je répète encore une fois, tant que les Américains ne disent tout publiquement qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis un acte perfide contre l'Union soviétique, un acte d'agression contre l'Union soviétique, tant qu'ils ne s'excusent pas d'avoir commis cet acte et tant qu'ils ne donnent pas l'assurance que des actes pareils ne seront répétés ni contre l'Union soviétique, ni contre aucun autre pays socialiste, nous ne pourrons pas...
Ce petit jeu dure 2 jours, mais les Américains ne présenteront aucune excuse. Alors tout le monde se sépare, sans que la moindre discussion n'ait eu lieu. Cet échec du sommet de Paris reste l'un des épisodes les plus emblématiques des crispations de la guerre froide.
L'année 1960.
En 1960, en pleine guerre froide, les relations soviético-américaines sont très tendues, vous l'avez compris. Et il y a un domaine où les deux superpuissances se tirent la bourre. C'est la conquête spatiale. Qui sera le premier à envoyer un homme dans l'espace? Qui foulera le premier la Lune? Le 19 août 1960, les Soviétiques lancent leur premier vol spatial habité, Sputnik 5. Mais attention, hein. Habité mais pas par des humains. C'est une arche de Noé qui est placée en orbite. 42 souris, 2 rats et 2 chiennes, fléchettes et écureuils qui vont servir de cobayes. Et verdict ? Ah ben ça s'est bien passé. Le lendemain, toute la ménagerie rentre au bercail.
Les siècles futurs retiendront le nom des 2 chiennes soviétiques, écureuils et fléchettes. Pendant 25 heures, elles ont accompli avant les hommes le rêve que les hommes caressent depuis toujours. Le voyage aller-retour Terre-Cosmos. Les journaux du monde entier nous ont appris qu'Écureuil et Fléchette avaient parcouru dans leur navire spatial 700 000 km et fait 18 fois le tour de la Terre. À leur retour sur Terre, à 10 km exactement du point où on les attendait, Écureuil et Fléchette n'ont rien dit de particulier. Elles se sont contentées, paraît-il, de remuer la queue et de courir en sautant vers leur maître. Et pourtant, elles en savent maintenant plus long que nous tous.
Et les Parisiens, interrogés sur Europe numéro 1, qu'est-ce qu'ils en disent, eux ?
Sur le plan humain, quel sentiment éprouvez-vous à l'idée que les hommes pourraient bientôt faire la conquête de l'espace ?
Et si je devais avoir un sentiment, ça serait certainement un sentiment de fierté, parce que j'ai une grande admiration pour les gens qui font ces trouvailles.
Je trouve ça merveilleux, moi.
Les Russes ont envoyé un satellite de 4 tonnes 500 dans l'espace. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez peur ?
Peur ? Ben non, parce qu'on n'a rien vu.
Vous avez peur à l'idée que ces satellites tournent autour de la Terre ?
Mais pas du tout, pas du tout.
Quel sentiment éprouvez-vous ?
Je suis fier parce que ça sera merveilleux aussi. C'est sensationnel parce que regardez, quand on montait dans un avion il y a 35 ou 40 ans, tout le monde avait peur. Maintenant, c'est de la rigolade, un avion.
Je crois que c'est les gens qui font ça savent exactement ce qu'ils font.
Trouvez-vous normal que l'on fasse des dépenses de telles sommes pour conquérir l'espace ?
Oui, parce que supposons que ce ne soit pas très très utile, une chose est certaine, c'est que ça ne fera de mal à personne, je ne pense pas toujours.
Je trouve qu'on a toujours intérêt à élargir le champ de ses connaissances. Et un satellite artificiel, s'il n'est pas à destination militaire, et moi je ne vois pas en quoi ça pourrait me faire peur.
D'autres Français se fichent totalement de cette aventure spatiale. Bah, la belle affaire! Ça doit encore coûter un pognon de fou, tout ça.
Bon, moi, je crois que c'est une vaste rigolade.
Ça me laisse un peu indifférent.
C'est merveilleux pour l'instant, mais plus tard.
Trouvez-vous qu'il soit utile que l'on dépense des sommes folles comme on fait maintenant pour faire les recherches?
Pas toujours, pas toujours. Il y a d'autres choses aussi belles à faire.
Vous ne trouvez pas qu'il est utile que l'homme aille dans l'espace?
Pour faire quoi?
10 jours après cet exploit soviétique, les Américains ne s'avouent pas vaincus. Werner von Braun, qui est un ingénieur américain d'origine allemande et qui est en charge du programme Apollo, l'assure. Ce sont les Américains qui enverront le premier homme dans l'espace.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, votre rêve d'enfant est sur le point de se réaliser?
Nous avons un plan parfaitement défini. Primo, nous lancerons cette année 3 fusées Redstone avec dans leur nez des capsules Mercury. Les 2 premiers vols seront sans passagers humains, mais si nous récupérons les capsules comme nous le pensons, dès le 3e vol, il y aura des hommes. En d'autres mots, nous aurons un astronaute dans la capsule pour un aller-retour.
Mais finalement, les États-Unis ne gagneront pas la course. Le premier voyage d'un homme dans l'espace se déroulera en avril 1961 et c'est Yuri Gagarin qui coiffera ses concurrents américains au poteau. 1 mois.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for. But I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
C'était What a Wonderful World, interprété par Sam Cooke, un Américain qui est considéré comme le père spirituel de la musique. Ça.
1960, Ondelat raconte sur Europe 1.
En février 1960, la revue Satellite, revue d'anticipation, dévoile le nom du gagnant de son grand concours. L'heureux élu est sur Europe numéro 1. Il a gagné un voyage sur la Lune.
Comme l'idée m'est venue que je pourrais peut-être envoyer une réponse valable, ben j'ai fait un petit manuscrit. Et 4 mois après, un coup de téléphone de la revue Satellite m'a appris que j'étais le lauréat du prix.
Comment voyez-vous votre voyage et comment voyez-vous votre arrivée là-bas?
Je m'imagine qu'il y aura un tout petit réduit de réservé pour moi où je ne me sentirai pas tellement à l'aise. Enfin, on fera pour le mieux, on emportera des cigarettes si c'est permis de fumer, j'emporterai des cartes pour faire des réussites, enfin je n'en sais rien.
Enfin tout ça paraît dingue. Les Russes viennent tout juste d'envoyer des animaux dans l'espace. Et voilà que ce Français de 54 ans, qui est fumeur et joueur de cartes, pense aller sur la Lune. Le reporter d'Europe numéro 1 s'assure qu'il ne s'agit pas d'une mascarade.
Mais dites-moi, entre nous, ce voyage dans la Lune, vous y croyez?
50-50, comme disent les Anglais.
Si, au bout de 10 ans, ce voyage n'est pas techniquement possible, si, au bout de 10 ans, vous n'embarquez pas dans la Lune, je crois que...
Il y a en effet une police d'assurance qui a été conclue avec la compagnie L'Abeille. Et à ce moment, il y aura une indemnité de verser. Je n'ai pas encore vu le contrat, mais je fais confiance à M. de Courcelles qui s'occupe de cela.
Mais écoutez, je peux vous le dire, cette indemnité, mon Dieu, est de 10 000 nouveaux francs, c'est-à-dire 1 000 000 en francs anciens.
Eh bien, ce sera un prix qui sera certainement le bienvenu à ce moment-là. Et en attendant, je me contente de dire à la Lune lorsque je la vois, à bientôt peut-être.
Dans un autre style et sur un tout autre sujet, j'ai retrouvé un reportage de Pierre Bouteiller qui est une pépite. Il a mis la main sur un fait divers bien étrange. Un commerçant qui s'aperçoit en fin de journée qu'il lui manque des petites sommes.
C'était ma femme, évidemment, qui s'occupait de la caisse, quoi. Et de temps en temps, évidemment, elle voyait qu'il y avait un petit trou dans son budget, quoi, dans sa caisse. Elle me dit, tiens, tu m'as pris 5 000. Une autre fois, tu m'as pris 10 000.
Or, il n'y a jamais eu d'effraction dans la boutique. Et le commerçant a toute confiance en son épouse. Et ce n'est pas lui le voleur. Qui donc, alors? Il décide de demander la surveillance de sa boutique en journée.
J'ai préféré mettre les gendarmes au courant. Les gendarmes sont venus, alors ils se sont installés au premier étage, quoi, en somme, quoi. J'ai percé un tout, c'est moi-même qui l'ai fait, avec une chignole, quoi.
Les gendarmes ne constatent aucun vol durant la semaine. Le commerçant quitte sa boutique pendant le service religieux du dimanche, et la surveillance gendarmesque est maintenue.
Moi, vous comprenez, étant commerçant, c'est un peu dans l'obligation, vous comprenez, de me présenter, puisque... Ils me sont tous plus ou moins clients dans la commune. Alors, chaque fois qu'il y a un service, évidemment, je me présente à peu près à tous.
Il y avait un service religieux, alors?
Il y avait un service religieux.
Le voleur est venu pendant le service religieux?
Pendant mon absence.
Quoi. Il a été pris en flagrant délit?
Il a été pris en flagrant délit.
Et ce voleur du dimanche, je vous le donne en mille, c'est le bedeau de l'église.
Évidemment, sa véritable occupation, c'était de sonner les cloches, quoi. Enfin, à tous les sons, quoi. Oui. Tous les sons, par exemple, le premier son, ça se fait une heure avant la messe, le deuxième son, une demi-heure, et alors à l'heure de la messe. Quoi.
Alors là, il avait sonné les cloches pour le service religieux, et après il était venu ici. Et
oui.
Vous êtes peut-être croisé sur le chemin de l'église.
Oui, c'est ça.
Enfin, à cause de vous, la petite ville de Comana manque de bedeaux.
Oh, il y a des chances, oui. Les cloches restent muettes depuis, d'ailleurs.
Depuis que vous avez fait arrêter le bedeau. Ouais. Bon, je vous remercie, monsieur Carléo.
Le 19 avril 1960, en Angleterre, c'est l'effervescence. La reine Elisabeth II vient de donner naissance à son troisième enfant. À l'extérieur de Buckingham Palace, la foule attend de connaître le sexe de l'enfant. Et comme le veut la tradition, un faire-part royal va être affiché sur les grilles du palais.
À 4h10, un membre du palais s'approche des grilles avec un écriteau bordé d'or à la main. C'est l'annonce de la naissance. Dans la foule, des gens se pressent vers la grille. C'est un garçon, dit-on, un peu partout. Et j'ai l'impression que l'on va connaître immédiatement l'annonce officielle. En effet, un faire-part surmonté des armes de Buckingham Palace est accroché. Et il porte ces mots. La reine a été heureusement délivrée à 3h30 d'un enfant mâle. La reine et le prince se portent bien. Vous êtes français, monsieur?
Non, je suis américain.
Que pensez-vous de cette naissance?
C'est excellent, je suis ravi, naturellement.
Vous préférez un garçon ou une fille ou...
Oh, un garçon. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça me fait plaisir.
Après Charles, après Anne, voici donc Andrew. Cette naissance est un événement retransmis en Mondovision. Elisabeth II est reine depuis 8 ans. Et ce troisième enfant est le premier à naître alors qu'elle est au pouvoir. Ça fait 103 ans qu'un souverain régnant n'a pas eu d'enfant à Buckingham.
Le Daily Mirror, travailliste par exemple, le plus fort tirage des journaux anglais, a remplacé l'encre rouge de sa manchette par de l'encre dorée et titre tout sur toute sa première page avec ces deux mots « Hello boy, bonjour garçon ». Pour le Morning Advertiser, l'événement le plus important est que le prince Charles ait quitté cette nuit son école de Chins sur un coup de téléphone de son père et soit venu au palais de Buckingham voir son petit frère.
Le lendemain de la naissance du nouveau prince Andrew, Julien Besançon, encore lui, suit les cérémonies royales.
Un régiment de la Royal Horse Artillery arrive au pas de charge sur les pelouses de Hyde Park. Il est maintenant 1h-2 minutes. Le colonel, qui commande le régiment, en uniforme noir, dolman à brandebourg jaune, Chaco, à plumet blanc, regarde sa montre et vient de donner un commandement. Les avions survolent Hyde Park en formation serrée. Il y a en tout 41 coups de canon à donner. En même temps, à la tour de Londres, les artilleurs honoraires de la reine, eux aussi, tirent le canon. C'est fini, le dernier coup de canon vient d'être tiré. Les artilleurs remettent les obus vides dans les caissons. Cela a duré exactement 5 minutes.
Évidemment, la France s'est fendue de félicitations au couple royal pour cette naissance.
On a noté l'arrivée au palais d'une large boîte entourée d'un ruban bleu azur. À l'intérieur, des orchidées et des rosetés. À l'extérieur, une carte de visite très simple, le général de Gaulle.
Et en 1960, sur Europe numéro 1, on sonde une cartomancienne, figurez-vous. Comme ça, juste pour imaginer le futur de ce royal bébé.
Madame Luce Vidil, sous quel signe est né l'enfant royal ?
Il est né, le soleil étant entre le signe du Verseau et le signe des poissons.
Qu'est-ce que cela veut dire pour lui ? Est-ce qu'il va vivre longtemps ?
Il vivra très longtemps. Il sera sage, réfléchi, prudent, prévoyant, très jaloux de son autorité, ne transigera pas à ce point de vue.
Et côté amour, madame ?
Oh, Vénus, conjointe à Mars puissant, le rendra bienveillant, aimable, très passionné dans ses affections, conquérant, et rappellera un peu son
aïeul. Conquérant, alors il fera des frasques, alors sans doute.
Conquérant aussi longtemps qu'il sera célibataire.
Autrement dit, jusqu'au mariage...
Oui, mais après le mariage, il sera très fidèle. Il épousera une princesse royale qui saura être la conseillère de son mari. Il sera très mobile dans ses affections de cœur aussi longtemps qu'il sera célibataire.
Autrement dit, quand il sera célibataire, il ne sera pas très sérieux et après, il se rangera, comme tout le monde.
Bon, ressortir aujourd'hui cette prophétie est bien cruel. 60 ans plus tard, le prince Andrew fera la une de l'actualité mondiale. Il sera empêtré dans le scandale de prostitution de mineurs du milliardaire Epstein. Et en novembre 2019, le prince Andrew se retirera de la vie publique.
Now there are three steps to heaven. Are three steps to heaven. Just listen to heaven and you will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps, to heaven. Steps one, to heaven. Two, and three. Step one, you find a girl you love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. The formula for heaven's very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps one, two, and three.
C'était Eddie Cochran avec son dernier single « Three Steps to Heaven » sorti en mars 1960. Un mois plus tard, l'artiste de 21 ans meurt dans un accident de la route en Angleterre. Merci à Guillaume Maury et Julien Pichenet et à Boris Paczynski pour la réalisation. Remerciements aussi à Sylvain Denis, aux archives d'Europe 1. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1960 dans le troisième épisode dont De Lattre raconte une année.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.